la couleur des idées. Pascal Seyss.
Madame, monsieur, bonjour et au travail ce samedi avec une batterie de questions. Qu'appelle-t-on pensée ? Qu'est-ce que déplacer et se déplacer par la pensée ? Qu'est-ce que pratiquer une pensée pensive et qu'est-ce que le roman explore et que capte la poésie ? Bienvenue dans la couleur des idées sur Musique 3. Nous avons l'immense joie et aussi le très grand privilège d'accueillir François Julien, philosophe, helléniste et sinologue dont la pensée croise depuis longtemps les traditions chinoises et européenne, le détour et l'accès, la vie animale, Dieu et des coïncidences, Moïse ou la Chine, les transformations silencieuses, récemment dénouées, petite philosophie pratique de la médiation, ce sont quelques-uns des essais écrits sous sa plume à lui, sous votre plume à vous. Bonjour François Julien.
Bonjour.
Vous venez de publier un nouvel opus chez Actes Sud intitulé « Puissance du pensif », un livre dense dans lequel vous explorez une façon particulière de penser que vous appelez le pensif, qui est en lien avec la littérature. Alors il y avait un autre concept, celui de décoïncidence, qui est aussi très fécond pour nous ouvrir à la possibilité de la nuance. Nous y reviendrons, mais avant cela, puisque nous avons le plaisir d'une conversation avec vous, François Julien, il faut préciser à nos éditeurs et à nos auditrices que vous explorez depuis longtemps la relation entre l'Orient et l'Occident, vous faites dialoguer le judaïsme et la pensée chinoise, Aristote et le taoïsme, vous questionnez la vie animale et le vivant, le rapport entre des visions du monde, des langues et des cultures autres. Est-ce cela, François Julien, qui vous met au travail ? Serait-ce précisément quelque chose qui a à voir avec ce mot « autre » ?
Oui, la question de l'altérité, mais d'abord le fait de, puisque vous avez avancé le concept, le fait de décoïncider sa propre pensée. C'est pour ça que, jeune helléniste, je me suis tourné vers un ailleurs de la culture européenne, que j'ai choisi en Chine, pour, disons, m'écarter de la tradition dont je venais, l'héritage grec, comme on dit, et ouvrir un écart donc par rapport à cet héritage pour ouvrir de nouveaux possibles, pour ne pas rester si dans la coïncidence qui tend à se figer, et disons explorer d'autres possibilités. Donc c'est ça qui est à l'origine de mon chantier, si vous voulez, de venant des Grecs, de passer par l'espace de la Chine, mais pas pour m'y installer, pour disons me inscrire mon travail en tension dans l'entre des deux. Donc ça, c'est le premier temps de mon travail. Et progressivement, je suis revenu à ce qui était mon projet de départ, à savoir plutôt une philosophie générale, comme on dit. C'est-à-dire poser des questions, notamment autour du vivre, de la littérature, aussi de l'engagement politique. Bref, en me décalant un peu de ce premier temps, sans du tout rompre avec lui, de façon à essayer d'interroger à nouveau frais les questions qui nous sont communes.
Alors justement, comment cette rencontre, François Julien, entre la pensée européenne et la pensée chinoise, a au fond façonné votre manière de réfléchir ? Vous parlez de tension, et comment l'une a nourri l'autre ?
Alors, il ne s'agit pas pour moi de comparaison. Souvent, on me plaque cette idée banale de philosophie comparée, parce que j'évoque à la fois l'un et l'autre. Non, il ne s'agit pas de comparaison, il ne s'agit pas de voir les différences ou les ressemblances entre ces pensées diverses, mais plutôt d'essayer d'élaborer un vis-à-vis réflexif où chacune de ces pensées puisse se réfléchir dans l'autre et même y sonder son impensée, c'est-à-dire ce qu'elle ne perçoit pas d'elle-même ou ce qu'elle ne peut pas penser d'elle-même. C'est ça donc ce vis-à-vis réflexif que j'essaie d'élaborer. Et pour moi, il s'agit d'abord d'entrer dans la langue. Donc je dis toujours langue-pensée. C'est pas la pensée comme ça chinoise ou la pensée grecque, c'est ce qui se trame dans la langue grecque et ce qui se trame dans la langue chinoise. Et donc, il faut descendre dans la langue. Je suis donc à la fois philologue et philosophe. L'expérience que j'en ai retirée, c'est une sorte d'ébranlement. C'est que c'est toujours, il y a toujours un désemparement de sa pensée quand on va à la rencontre d'une autre pensée. N'est-ce pas ? Cette autre pensée est d'abord ailleurs. C'est ensuite que je dirais qu'elle est autre si je l'ai réfléchi, mais au départ c'est ailleurs. Il y a un ailleurs de la Chine par rapport à l'Europe, et c'est cet ailleurs qui nous oblige à déménager en quelque sorte, et qui produit ce désemparement quand on accède à quelque chose qu'on ne reconnaît plus. C'est ce qu'on appelle une rencontre. Une rencontre, c'est quand on ne reconnaît plus, donc il y a de l'autre qui se trouve à l'horizon. Et c'est ce qui m'a paru pouvoir relancer la pensée. Puisque la philosophie, elle est dans ces questions déjà constituées. Ce que Nietzsche appelait l'atavisme de la philosophie, atavismus, n'est-ce pas ? Et donc, c'est ce que j'appellerais une coïncidence de la philosophie avec elle-même, qui fait que cette coïncidence, cette adéquation s'installant, progressivement se fige, s'immobilise, et quelque part paralyse. La philosophie, effectivement, a tendance à se bloquer dans ces questions. Donc, passer par un autre espace de pensée, d'abord de langue et de pensée, permet non seulement de prendre du recul, mais d'interroger ce que la pensée européenne, notre pensée, comme on dit, n'interroge pas. Parce qu'il y a ce qu'on pense, et puis ce qu'on pense à penser. Et ce qu'on pense à penser peut être réduit par rapport à ce qu'on pourrait penser. Donc c'est une stratégie que j'essaie de le promouvoir, une sorte de ruse, n'est-ce pas, pour essayer d'avoir accès à l'impensé de notre pensée. C'est-à-dire, là, j'entends par impensé notre pensée, ce à quoi notre pensée est adossée, et que par la même, elle ne peut pas penser. Donc il y faut de la ruse, de la stratégie, bref, quelque chose qui pour moi a été un détour par la langue et la pensée chinoise, mais en même temps qu'il y a détour, je dis bien en même temps, pas après, il y a retour. Retour donc réinterrogeant la pensée européenne dans ce qu'elle appelle ses évidences, c'est-à-dire ses choix implicites, ce qu'elle ne songe pas interroger. Et pour moi, ça a été, venant des Grecs, la pensée de l'être ou la pensée du logos. Bref, quelque chose qui est si foncier dans notre tradition, je n'aime pas le mot tradition, mais disons dans notre héritage, si vous voulez, qu'on ne peut pas l'interroger, qu'on n'a pas prise sur lui. Et passer par cet autre donne prise sur sa pensée et ce qui s'est peut-être coincé dans notre pensée et qu'on pourrait comme ça rouvrir pour le réfléchir.
François Julien, vous évoquez ce qui se trame dans la langue, vous évoquez aussi une certaine forme de désemparement. Au fond, en cherchant cette distance par rapport au cadre traditionnel de la philosophie occidentale à travers la langue et la pensée, est-ce une démarche avant tout intellectuelle ou aussi éthique et existentielle ?
Je ne peux pas séparer l'un et l'autre. Il y a une ascèse philosophique, il y a aussi un choix de vie philosophique, ou de vie philosophante plutôt. Il s'agit, parce que je ne crois pas, si vous voulez, qu'il puisse avoir qu'on puisse déménager seulement par l'esprit. Je crois qu'il y a quelque chose qui est, quand je parle de désemparement, c'est une expérience de pensée, mais qui est aussi une expérience qui déborde ce qui serait le proprement pensé, si vous voulez. Donc il y a une démarche. Une démarche qui est aussi, bien sûr, une démarche d'existence. On n'est jamais... on ne fait toujours que commencer. En fait, l'idée qu'on va quelque part ou qu'on aboutit me paraît assez un peu artificielle ou superficielle. C'est-à-dire qu'au fond, plus je m'engage dans cette voie, plus je m'interroge. Moins je suis rassuré, si vous voulez. Au lieu de me caler progressivement dans quelque chose qui me paraîtrait plus solide, je crois que le désemparement, lui, va s'approfondissant. Et donc, alors la question pour moi, c'est de le mettre en phrase, n'est-ce pas ? Ne pas en rester à une sorte d'intuition de ce qui pourrait s'ébranler dans la pensée, mais essayer de l'écrire. Et c'est de plus en plus mon travail.
côté musique 3 et la couleur des idées de François Julien. Nous évoquons la puissance du pensif, mais avant cela, François Julien, nous venons d'entendre ici les jeux de vagues de Bussy. La notion de vague, de l'expérience dans votre réflexion, vous parlez souvent de l'infini, de vivre. Et le pensif est peut-être ce qui explore d'ailleurs cet infini. Est-ce qu'il y a un risque à se jeter dans la vague ou à se perdre dans la vague comme celle de Debussy que nous venons d'entendre ?
Non, mais le risque habite la philosophie dans son principe. Si on ne veut pas prendre de risque, il ne faut pas s'engager dans cette voie-là. Je crois que le risque est... Oui, on dit souvent que la philosophie est en rapport avec la sagesse. Pour moi, elle est plutôt en rapport avec la folie. Donc, si vous voulez qu'il y ait un risque à se laisser emporter, cela, je dirais, va de soi. Cela dit, je reviens sur la notion d'écart, parce que, bien sûr, j'ouvre une distance par rapport à la pensée européenne en me déplaçant en Chine, mais si je valorise la notion d'écart, c'est que l'écart ouvre une distance, mais qui maintient en regard. Donc, si je passe en terrain chinois, je reste tourné vers la pensée européenne, et c'est l'antre ouvert par écart, cet antre avec un E, n'est-ce pas, et qui pour moi est en tension et qui fait penser et qui est, disons, ne s'installer d'aucun des côtés. Mm-hmm. Être atopos, comme dit Socrate, n'est-ce pas, nulle part. Ne pas avoir de lieu propre. Et c'est ça, le vrai décalage ou, disons, le désemparement. Mm-hmm. Alors oui, il y a rapport à l'infini. Dès lors qu'on déborde, si vous voulez... là où la pensée s'installe, elle se risque à l'infini. Ça me paraît clair. Et effectivement, la notion de pensif va avec l'infini. Puisque cet état pensif, cet état pensif de la pensée n'a pas de limite, n'a pas de fin. Finit en point de suspension, donc ne finit pas vraiment. Et je crois qu'effectivement, c'est pour ça que la notion de pensif me paraît propre à parler de la pensée littéraire. Parce que la pensée littéraire ne clôt pas, et même ne détermine pas, et même n'assigne pas. Donc elle est dans cette évasivité, si je l'ai nommée, n'est-ce pas, ce que Mallarmé appelle le vague de la littérature, ta vague littérature. Donc quelque chose qui, à la différence de la pensée pensante de la philosophie, qui elle tend à déterminer, qui tend à assigner, donc qui arrête, qui bloque, pour, disons, produire de la clarté, bloque les notions en elles-mêmes, et donc fait de la détermination sa vertu. Je pense que la phrase qui le dit le mieux, c'est la phrase d'Aristote quand il dit « Parler, c'est dire. Dire, c'est dire quelque chose, c'est signifier quelque chose. » Donc la philosophie veut déterminer un objet. La littérature, au fond, n'a pas d'objet assigné. Son seul objet, c'est vivre. Mais vivre n'est pas un objet possible. Donc, elle porte en elle, effectivement, une indéfinition qui fait qu'elle ne se laisse pas bloquer dans sa démarche, arrêter dans ce qui serait son sens, mais effectivement, à rapport à une évocation infinie. Et c'est d'ailleurs... dans ce contexte-là, que la notion de littérature s'est elle-même constituée historiquement, fin 18e, début 19e siècle, dans ce qu'on appelle le pré-romantisme, romantisme, qui aussi est la pensée de l'infini.
Alors, votre essai, vous évoquez l'indétermination, ou l'ouverture en tout cas, ou l'écart, encore une fois, que permet la littérature. Votre essai, il s'ouvre sur la fin d'une nouvelle de Balzac, et la nouvelle s'appelle Sarrasine, qui se termine de la façon suivante: et la marquise resta pensive. Cette formule vous a laissé pensif, si l'on peut dire. Au fond, en quel sens ? Qu'est-ce qui se passe là, que vous appelez puissance, de quelque chose qui serait de l'ordre du pensif ?
Bien parce que la nouvelle s'arrête, et en fait elle ne s'arrête pas. Puisque « et », ce « et » qui serait « et » de conclusion ou de fin d'histoire, la marquise resta pensive, donc... elle continue de penser et de penser évasivement au-delà du récit qui est fait. Donc il me semble que c'est caractéristique, si vous voulez, de cette disposition et de ce travail, si vous voulez, de la pensée qui ne se bloque pas, ne s'arrête pas, mais se déploie. Et pensif me paraît un terme intéressant en français. Bon, c'est un terme d'allant courante. On a tous été pensifs à un moment ou à un autre, dans le train, dans des situations où on n'est pas forcé à penser quelque chose. Mais il me semble que c'est un terme intéressant parce qu'il est en tension entre, d'une part, une concentration et en même temps un laisser-aller. Quand on est pensif, à la fois on se retire en soi-même, mais se retirant en soi-même dans sa pensée, on laisse aller sa pensée. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de... Le terme est intéressant, il est ancré dans l'existence. En plus, c'est un terme européen. Je suis très attentif à ces termes qui font Europe. Et disons, il se distingue, me semble-t-il, de ce qui serait la pensée pensante. Il y a une pensée pensive. La pensée pensante est celle qui détermine, qui assigne, bref, c'est celle qui va développer la philosophie. Et la pensée pensive me paraît caractériser cet autre mode de pensée qui est propre à la littérature. Parce que mon propos était de montrer que la littérature pense. Elle pense de plein droit. Elle pense pas à l'ombre du philosophique, ou elle pense pas moins que le philosophique. Elle pense pleinement, mais d'une autre façon que le philosophique. J'inscris en parallèle le fait que la philosophie s'écrit. Ce n'est pas seulement la littérature qui est dans sa phrase, la philosophie aussi. Donc je crois qu'il faut croiser les deux, la littérature pensive et la philosophie s'écrivant.
Et vous l'appelez puissance, cette pensivité.
Oui, puissance parce qu'il y a, une puissance de cette indétermination, de cet infini, de cette évasivité. Il y a une puissance, parce qu'il y a des effets propres, si vous voulez. On a peut-être été seulement attentif, parce que c'est ce que fait la philosophie, à la pensée pensante qui détermine, qui assigne, bref. Et c'est une puissance, puissance du logos. Mais je pense qu'il y a une autre puissance, et cette puissance que déploie, libère, si vous voulez, la littérature dans cette pensivité.
Alors, ce n'est pas une pré-philosophie ni une anti-philosophie, la littérature, dites-vous. Est-ce que, dans votre définition, la littérature, elle est plus pensive que la philosophie ?
Elle est pensive, la philosophie ne l'est pas. Simplement, c'est que la philosophie n'a pas à être pensive. La philosophie vous prend par la main, si j'ose dire, et vous fait penser pas à pas, et en déterminant tous ces stades successifs de la pensée, argument après argument. Donc, comme dans les démonstrations mathématiques, dans Platon, on voit bien le parallèle. Il faut donc suivre la pensée pas à pas, et ne pas en déborder, coller à l'argumentation avancée. C'est ça qui la rend convaincante. Je crois que la tâche de la littérature est tout autre. Et quand on a fini de lire le roman, on n'a pas fini de le lire. Enfin, il nous habite encore, enfin, quand c'est un bon roman. C'est même un critère qui fait qu'on peut juger que c'est un bon roman, c'est qu'il maintient dans cette pensivité qui n'a pas de fin. Donc je crois qu'il y a deux formes de pensée, c'est pour ça que j'ai voulu les appeler de deux termes différents, bien qu'en parallèle, la pensée pensante de la philosophie et la pensée pensive de la littérature.
Et vous dites que la littérature doit son avènement, son existence à cette idée qu'un monde ordonné s'est brisé. Est-ce que la philosophie serait ce qui tient à un monde ordonné et que la littérature va dans le débridé ou dans ce qu'on appelait l'infini de tout à l'heure ?
Non, parce que je pense que la philosophie, dans sa modernité, elle aussi, c'est même elle qui a préparé peut-être cet ébranlement du monde classique. Ce qui me semble à interroger, c'est quand même ce phénomène historique. C'est qu'avant la fin du XVIIIe siècle, on ne disait pas la littérature. Littérature signifiait seulement chose écrite. On disait les belles lettres, on disait les ouvrages de l'esprit, ou on disait les genres. On disait la comédie, la tragédie. Et ce qui est remarquable, je souligne dans mon petit livre, c'est que Aristote dit qu'il y a une case qui manque, un nom qui manque, que c'est anonyme, c'est quoi ? Parce que ce que nous appelons, nous, la littérature, l'art de la composition en mots. Puisqu'Aristote, dans sa poétique, parle des genres. Mais il note qu'il y a une case, donc, commune, qui n'a pas de nom. C'est celle qui sera la littérature. Mais très tard, c'est-à-dire plus de 2000 ans plus tard, quand fin 18e siècle, on parle de la belle littérature et enfin finalement seulement de la littérature. Fin 18e, début 19e. Je crois que si vous voulez, autant le terme de philosophie est un vieux terme grec, avant même la naissance de la philosophie, on le trouve déjà chez Hérodote. Donc la case est vraiment bien prête pour son déploiement. Autant pour ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, la littérature, il n'y a pas de nom. Encore une fois, c'est la notion de genre qui prévaut. Et je trouve qu'il est important de souligner cette dimension historique qui fait qu'il y a effectivement quelque chose qui s'ouvre, enfin qui s'ébranle, qui s'effondre et en même temps qui s'ouvre, qu'on appellera la modernité, fin du 18e, début du 19e siècle, plutôt le 19e siècle ensuite, si vous voulez, et qui est dû au fait que un certain ordre du monde, effectivement, est ébranlé. Ordre politique, ordre religieux, avant ce qu'on appelle les belles lettres, avait pour vocation, comme dit la formule classique, n'est-ce pas, d'émouvoir et d'enseigner, movere et docere. Parce qu'il y avait un ordre du monde qu'on pouvait comme ça décrire, représenter. Et ce qu'on appelait la nature humaine, ce qui était l'ordre hiérarchique de la société, ce qui était la croyance en religieuse, même si on n'était pas croyant, mais disons ce fond de croyance religieuse. Et c'est ça qui s'ébranle. Et ce qui fait que la littérature naît à cette période charnière, fin du 8e, début du 19e, c'est que l'ordre du monde s'effondre, se fissure, puis progressivement s'effondre. Donc il n'y a plus quelque chose à représenter qui serait déjà constitué, mais il y a justement une page blanche qui s'ouvre et à déchiffrer, puisqu'il n'y a plus, si vous voyez, d'objets constitués qui s'apparaissent, la croyance ou l'ordre social, le politique, etc. Eh bien, la littérature devient à pour charge d'explorer, de déchiffrer, de faire lever du sens dans ce qu'il n'en a plus de façon, comme ça, imposée. Donc, si vous voulez, cette mutation, la naissance de la littérature est une chose essentielle comme événement historique qui ouvre la modernité. Alors, du côté de la philosophie aussi avait comme fonction classique de stabiliser la pensée, c'est la notion d'être qu'il a portée, n'est-ce pas ? L'être solide, stable, la bébaïotèse, dit Platon, c'est-à-dire la stabilité de l'être. Et la philosophie, dans sa modernité, dans le même tournant que celui de la littérature, elle aussi s'ébranle et n'a plus la stabilité qu'on lui donnait précédemment, et elle se risque bien davantage. C'est toute l'ouverture de la philosophie du 19e siècle, y compris chez, je pense, à Nietzsche, n'est-ce pas ? Le « si dangereux peut-être », dit Nietzsche, « si dangereux peut-être ». C'est ça qui fascine la philosophie, l'ambiguïté, la contradiction, le paradoxe, quelque chose qui, donc, je crois que l'ébranlement, il est des deux côtés, et disons, c'est ce qu'on pense sous le terme de modernité. Pour moi, la modernité, si vous voulez, qui est une notion aujourd'hui un peu, devenue suspecte, post-modernité, anti-modernité, etc. Non, je pense qu'il y a eu modernité en Europe, qui a été empruntée ensuite dans d'autres cultures, mais disons qu'il y a le fait qu'un ordre du monde n'est plus fiable, et donc que la littérature n'est pas dans la fonction de décrire un ordre du monde constitué, mais de l'explorer, voire de se passer d'ordre du monde. Je crois que c'est quelque chose que nous devons réfléchir aujourd'hui pour penser ce que nous sommes, puisque cette modernité, nous sommes encore dans, dans ce sillage.
Nous sommes encore dans le sillage de la modernité, disiez-vous il y a un instant, François Julien. Et c'est à cette époque qu'apparaît la littérature, avec une case laissée vide, déjà, soulignez-vous, par Aristote. Est-ce que, ou en quoi plutôt, parce que c'est ce que vous dites, hein, que la littérature, elle est née au fond trois fois, qu'elle a connu trois naissances. Pourriez-vous nous expliquer en quoi une espèce de progression comme ça dans l'apparaître de la littérature qui est le lieu du pensif?
Oui, j'en vois trois parce que la première, elle est, je dirais, spontanée. C'est le fait que dès lors que la culture commence à se déployer, à très haute époque, ce qu'on appelle de la littérature apparaît. L'épopée, le chant d'abord oral, puis écrite ensuite. Comme dit Hugo, le monde naît, Homère chante. Donc ça, c'est le premier temps, mais d'une naissance de littérature qui ne sait pas ce qu'elle est. Et encore une fois, la notion qu'il la prend en charge, c'est celle de genre. Puis il y a ce moment charnière, progression, je ne sais pas, renversement aussi, qui se fin 18e, fin 19e, où de façon confuse, diverse, la notion de littérature vient à, disons, se promouvoir. Je vous ai dit, c'est quand même par le fait que se fissure, que s'ébranle et finalement que s'effondre un certain ordre du monde, ordre classique, comme on dit, à base d'être, de Dieu, de hiérarchie politique et sociale, de microcosme et de macrocosme. Bref, ça faisait ordre. Or, cet ordre se fissure, courant 18e siècle, déjà avant, c'est pas, mais quelque chose qui, cette grande fissuration qui se fait et qui va entraîner l'avènement de la modernité. Mais le terme de littérature lui-même ne naît pas d'un coup, n'est-ce pas? Puisque c'est à tâtons, et on appelle d'abord la belle littérature, donc comme on dit les beaux-arts, comme on dit les belles lettres, mais ce beau, en fait, est décoratif, et disons, on s'en débarrasse enfin pour dire seulement la littérature. On trouve ça en France, mais on trouve ça surtout en Allemagne. Jena, les frères Schlegel, dit schöne Literatur, et après, non. Vous voyez, parce que la littérature, notion qui se suffit elle-même. Donc, naissance différée par rapport à ce qui, disons, à ce qui a été sa première apparition, je dirais, spontanée. Et puis, alors, troisième naissance, c'est la mondialisation. C'est le fait que cette notion est empruntée partout, partout. Dans le monde, je cite deux cas, le monde arabe, le monde chinois. En chinois, effectivement, fin 19e siècle, début 20e siècle, la notion de révolution littéraire. Oui, révolution et littéraire, les deux vont ensemble. Wen Sui Geming, qui signifie au fond que on prend deux termes chinois, termes, disons, essentiels de la pensée chinoise classique, Wen, qui signifie texte, caractère chinois, mais aussi le roi Wen, enfin c'est un terme très lourd, très chargé de sens dans la tradition chinoise, et puis Xue qui est étudié, imité, s'appliquer, et on, disons, branche les deux termes l'un sur l'autre, pour traduire la notion européenne de littérature. Et donc la révolution littéraire, début XXe siècle, signale vraiment une modernité chinoise qui n'est plus réfléchi aujourd'hui. Tout ça paraît aller de soi. Tout ça est confondu autour d'une sorte d'unité qui, en fait, n'est pas la réalité de ce cheminement tâtonnant par lequel la notion de littérature est advenue. Et qui fait donc couple avec ce qu'on appelle, et à mon sens le terme est nécessaire, modernité. Puisque ce qu'on a beaucoup dit de l'art, à savoir que l'art était passé, disons, fin 18e siècle, notamment chez Kant, de l'hétéronomie, l'art servant à autre chose, à son autonomie, à savoir trouvant sa propre fin, sa propre loi en lui-même. Eh bien, vaut aussi pour ce qui va s'appeler la littérature. Simplement, la différence, c'est que l'art a son titre et son concept très tôt, alors que la littérature le découvre, découvre cette autonomie, justement, en promouvant ce nom nouveau dans cet emploi qui est celui de littérature.
François Julien, vous situez votre réflexion sur la base du romantisme allemand et des grands romanciers et poètes français du 19e siècle. Quel lien faites-vous entre leur écriture et votre notion, votre appréciation ou appréhension du concept de pensif?
J'ai dit, dans la période qu'on y appelle classique par commodité, dire avant la pensée moderne, il y a l'idée quand même d'une détermination. Et l'idée que, comme dit l'autre, n'est-ce pas, Boileau, ce qui se pense bien s'énonce clairement. Donc, ce qui se pense bien, ce qui s'énonce clairement, l'idée est donc qu'il y a une pensée déterminée qui va avec une clarté du langage. Bon, heureusement, les grands écrivains d'avant la modernité savaient déjà que ce qu'on appellera la littérature, c'est pas ça. Heureusement, il y a mieux que Boileau hein, pour écrire des vers, mais qui sont pas des vers, enfin qui sont des vers et qui sont pas de la poésie. Mais si vous voulez, il y a cette idée-là qui prévaut, alors que avec ce qu'on va appeler d'un terme là aussi tâtonnant, confus et qui n'a pas de détermination très claire, romantisme, c'est l'idée que, eh bien, alors j'ai conçu comme cela. C'est plus seulement le sujet qui pense, c'est la subjectivité qui devient pensive. La subjectivité. La subjectivité, c'est pas seulement, disons, le substantif de subjectif venant lui-même de sujet. La subjectivité porte en elle cette notion d'infini. D'infini et où tout le moi du sujet se trouve convoqué. Vous voyez, c'est pas seulement la sensibilité, c'est pas seulement l'affect, c'est que la subjectivité, elle, est infinie. Et je crois que la notion... Alors, à l'époque, on ne dit pas subjectivité, on parle beaucoup plus d'âme, n'est-ce pas ? Mais la terme de subjectif, vous le trouvez dans la philosophie du 19e siècle, qui se constitue progressivement, et qui n'est pas du tout le subjectif de Spinoza, par exemple. Sujet Spinoza, qui est tout à fait autre chose, qui est un sujet, justement, ouvert à l'infini et engagé dans son existence. Je crois que c'est les deux notions essentielles. L'idée d'infini et l'idée que tout en moi se trouve impliqué, convoqué. Et c'est ça qui est le terrain propre de la littérature. Donc l'idée de ce que c'est le vivre tout entier qui est en question et l'idée d'un infini qui se manifeste sous le terme le plus commun du vague, ce qu'on appelle le vague des passions. Je pense au René de Chateaubriand, à tout ce qui est cette idée qu'au fond, à tout ce qui est cet autre paysage. C'est plus le paysage de la Grèce ou de la Rome classique, avec ses contours précis, déterminés. C'est le paysage du Nord, c'est les brumes, c'est, disons, tout ce paysage qui n'a plus d'arête et qui s'ouvre à l'infini. Donc je crois qu'il y a une mutation essentielle, porteuse de la modernité, et qui quelque part renverse des choix de la pensée classique, notamment la pensée classique excluait la contradiction, point de vue logique, alors que la pensée moderne, et la littérature en premier, non seulement admet, accepte la contradiction, mais l'explore, n'est-ce pas ? Et vivre est contradictoire. Donc le paradoxe devient quelque chose, une figure féconde de la pensée, et disons plus encore de la pensivité. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui s'ouvre comme nouveau possible de la pensée, et la littérature devient n'a pas seulement charge, encore une fois, d'émouvoir et d'instruire, mais elle a la charge nouvelle d'explorer, de découvrir, alors, de déchiffrer.
Alors, explorer, découvrir, déchiffrer, dites-vous. Vous dites à la page 61 de votre essai que la littérature, au fond, enseigne comment on s'y prend avec la vie, comment on s'en tire. On sait que dans la tradition classique de la philosophie, il y a toute une série de manuels destinés à apprendre à vivre. Vous pensez que la littérature et la philosophie sur ce sujet ne sont pas alignées de la même façon ?
Non, parce que le apprendre n'a pas le même sens. Quand la littérature classique dit enseigner et émouvoir, c'est donc qu'il y a quelque chose qui est à enseigner. Là, il s'agit, je dis ça du roman, je dis le roman au fond nous raconte comment on s'y prend avec la vie. Comment on s'y prend ? C'est pour ça que c'est la perspective d'un sujet qui entre dans le monde, fait des expériences, l'amour, la passion, le pouvoir, l'ambition, tout cela, l'argent, tout ce qui... Et au fond, excusez-moi de cette formulation un peu générale, mais qu'est-ce que c'est que vivre ? Vivre, je crois, c'est ouvrir des possibles dans sa vie. Et c'est ce que raconte un roman, en tout cas un roman du 19e siècle. Comment un sujet ouvre progressivement des possibles dans sa vie où les voies se rétractaient. C'est deux possibilités, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un enseignement. C'est comment on s'y prend. Et le roman est une sorte de variation de situation, de cas d'existence, pour mieux appréhender comment des possibles s'ouvrent et puis peuvent se refermer, se rétracter, et comment ça fait une vie. Une vie, c'est au fond le nom de tous les romans. Ce n'est pas seulement le nom d'un roman de Maupassant. Et je crois que c'est ça qui est la charge du roman. Alors, le roman, évidemment, ce qui fait sa modernité par rapport... Alors, il y a du roman avant, mais roman par lettre au XVIIIe siècle, roman de toutes sortes de romans avant. Simplement, ce qui caractérise le roman, c'est qu'il n'a pas de règles. Alors que les genres, la poésie, la tragédie, la comédie, ont des règles. Là, il n'y a pas de règles. Donc, le roman, c'est une sorte de matrice, comme ça, exploratrice de vivre. Et c'est ce qui fait que le roman au XIXe siècle devient un genre prépondérant. Les autres genres se poursuivent ou se prolongent. Mais disons, presque, c'est le roman qui a le plus aisément à charge, avec la poésie, peut-être qu'on y reviendra, d'explorer ce que peut être vivre dans ses possibles. Et je crois que c'est donc... Alors, bien sûr, après coup, on peut dire que Balzac ou Stendhal nous apprennent à vivre. Mais ce n'est pas du tout le même sens que dans le sens précédent où il y avait quelque chose à apprendre. Là, non. Il s'agit de découvrir ce qu'est vivre, qui, encore une fois, n'est pas un objet. C'est pour ça que par rapport à vivre, on ne peut faire que, comme la marquise de Balzac, rester pensif. Parce que si vous voulez, pour penser au sens de penser qui pense pensément, il faut qu'il y ait un objet à déterminer. Et vivre n'est pas susceptible d'être déterminé comme un objet de pensée, comme c'est le cas des philosophèmes classiques.
Alors vous évoquez le roman, comme la littérature, comme matrice d'exploration du vivre. Mmh. Et en mentionnant la poésie, qui est une autre manière d'écrire, vous dites en fait une chose très simple. La poésie, dites-vous, elle dit « voici ». La poésie, oui. Elle fait apparaître.
La bonne poésie. Parce que là, il ne faut quand même pas se leurrer sur le cas notamment français, qui qu'on a appelé poésie, en fait, très souvent la versification. Or, je tiens, mais ce n'est pas moi qui le fais, c'est Rimbaud et après d'autres, n'est-ce pas? C'est qu'il y a d'une part la puissance du poétique, comme j'ai dit, puissance du pensif, et puis il y a d'autre part faire des vers et compter les syllabes et chercher une rime à la fin, n'est-ce pas? Donc la tradition française, à cet égard, implique là aussi de passer par l'histoire. Là, dans la magnifique lettre du voyant de Rimbaud, il est bien dit « Après les Grecs jusqu'à nous, Moyen-Âge », dit Rimbaud. On a des versificateurs. Donc, la poésie, si on décape cette notion, si on la pense dans sa vocation, si on la pense telle que le romantisme en France, et surtout après Baudelaire ou Rimbaud l'ont déployé, alors oui, c'est vraiment une exploration, du vivre, mais une exploration également du langage qui est sans limite, qui est sans borne, qui est vraiment une aventure. Et c'est ça qui me paraît très précieux, enfin surtout essentiel à penser.
Le roman explore, dites-vous, la poésie capte. C'est ça l'idée?
Oui, si... alors, je n'ai pas commenté votre voici. Oui, parce qu'au fond, la poésie, elle fait apparaître. Elle capte quoi? Ce que le langage pensant ne capte pas. C'est-à-dire l'émotion, c'est-à-dire, et capte, je crois, plus profondément, c'est un peu l'argument de mon livre, que ne fait la philosophie. La philosophie détermine, capter, c'est pas déterminer. Capter, c'est saisir dans son passage, dans son flux, le flux du vivre, le flux de l'émotion, le flux du sentiment, de façon à ce qu'on ne soit pas perdu. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Une émotion, un moment de vie, n'est-ce pas, est capté de façon à quoi faire? À le faire apparaître. Oui, et modalité du voici, voix ici, n'est-ce pas? C'est pas seulement le voici. Alors, chez Baudelaire, c'est très souvent voici, n'est-ce pas? En ouverture du poème, chez Peggy. Donc, la poésie, elle présente, c'est-à-dire qu'elle rend présent. Non pas elle représente ce que faisaient plus traditionnellement ce qu'on appelle nous maintenant la littérature, elle présente, elle fait émerger, apparaître, bref, elle a cette vocation de... alors je pense que c'est général dans la vocation plutôt que fonction poétique, notamment du côté chinois, les quatrains des Tang, n'est-ce pas, c'est la forme la plus courte, ou le haïku japonais, encore plus courte comme forme, ce qu'on appelle les formes brèves, si vous voulez, a cette fonction de faire émerger dans le langage, dans la conscience, cet infime de la vie, de l'émotion, et de le promouvoir, on pourrait dire de l'éterniser, mais en tout cas, de le promouvoir dans sa consistance propre, au lieu qu'il soit aussitôt dissipé et emporté par le flux de la vie, comme on dit. Donc je crois qu'il y a cette vocation, effectivement, et qui est liée à l'instant, n'est-ce pas ? À l'instant. Instant, vous voyez, j'aime ce mot en français riche, instant, instance, insistance, vous voyez, tout ce vocabulaire de ce qui n'est pas stable, mais de ce qui trouve dans son expression poétique, eh bien, une consistance propre.
Alors, vous évoquez la langue, François Julien. Dans votre essai, vous évoquez aussi l'idée de le concept d'universel intime, que l'intus est l'intérieur, que l'intimus c'est le plus dedans, ou d'âme à âme, la poésie, elle a à voir avec la vie de l'âme.
Oui, alors je voulais poser une question qui est, on sait tous qu'il y a un universel de la philosophie. Cet universel de la philosophie, c'est le concept. Les Grecs ont, et ça c'est l'histoire grecque, et c'est aussi le seuil, encore aujourd'hui, quand on entre en philosophie, passer des belles choses au beau, le beau en soi, l'idée du beau. C'est ce que Platon apprend à faire dans ses premiers dialogues. Donc, les Grecs ont commencé à penser le monde et le tout du monde. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est Apeiron? Bon, bref. Et puis, il y a un tournant, c'est Aristote, tournant socratique, qui est non plus penser le tout des choses, mais selon le tout. Kat olou, comme on dit catholique aujourd'hui. Selon le tout. C'est donc le concept. Et donc, il y a un universel du concept qui est, je dirais, l'outil de la philosophie. Est-ce que c'est le seul universel possible ? Il m'a semblé qu'il y avait un autre universel, celui de la littérature, celui de la pensée pensive, qui est un universel que j'ai appelé intime, en faisant travailler ce terme que je trouve très beau dans la langue, qui est ce terme d'intime, qui, comme vous l'avez dit, intus en latin, c'est dedans, intérieur, c'est plus dedans, l'intériorité, ça ne m'intéresse pas trop, l'intériorité, l'introspection, etc. Et puis intimus, le plus dedans que le plus dedans, intime. Comme on dit, mon intime conviction, comme on dit, un sentiment intime, c'est-à-dire dont on ne peut pas totalement rendre compte. Tellement il est... Parce qu'il est en deçà même de sa saisie par la raison et le langage. En même temps, on dit « je suis intime avec toi, nous sommes intimes ». Donc ce terme me paraît très riche dans sa... c'est pas sa dualité, dans ce qu'il fait communiquer au fond de lui-même entre le plus dedans du dedans de moi et puis l'ouverture à l'autre. Alors c'est un terme latin, c'est un terme rendu magnifique par Augustin, parce qu'Augustin dit « Dieu... est plus intérieur que mon intime. » Donc il construit un comparatif sur le superlatif, Deus est interior intimo meo. Alors il dit Dieu, on pourrait dire l'autre, n'est-ce pas ? X, l'autre, n'est-ce pas ? Donc au fond, quand on va au plus dedans du dedans de soi, qu'est-ce qu'on trouve de l'autre ? Alors que l'intériorité, elle vous replie, vous referme sur vous. L'intime, lui, creusant en deçà, en dessous de l'intériorité, débouche sur de l'autre. Et je crois qu'effectivement, il y a un intime universel, c'est celui qui est, disons, convoqué dans la lecture des romans ou du poème, n'est-ce pas ? Le fait que, en deçà de mon expérience personnelle, il y a quelque chose qui est d'emblée nécessairement partagé entre les hommes, un « nous », si vous voulez, avant le « je » particulier. Je fais alors une... j'essaie d'élaborer ça parce que, voyez, mon travail au fond, c'est de prendre des mots finalement communs, hein, mais de les promouvoir en concept. Et là, il y a quelque chose qui me paraît précieux, c'est la question qui se pose au début du XXe siècle dans la philosophie, aussi bien chez Freud que chez Husserl, voire que chez Bergson, qui est comment puis-je être sûr que les autres ont une conscience comme moi ? Or, ces trois penseurs, ils sont pas les moindres, nous disent au fond, c'est par déduction que je sais que vous avez une conscience comme moi. Par déduction, per analogiam, dit Freud, par analogie avec moi-même. Or, quand on est intime avec quelqu'un, c'est plus ça. C'est pas par analogie qu'on est proche de lui. C'est parce qu'on partage ensemble de la conscience. C'est pas que je suppose que vous avez une conscience comme moi parce que bon, vous ressemblez à moi, mais c'est qu'il y a un partage de conscience. C'est plus ma conscience ou ta conscience, c'est de la conscience partagée. Et cela me paraît quelque chose d'essentiel. Parce qu'au fond, quand on, la littérature, c'est ça à quoi elle se réfère, n'est-ce pas ? À cette conscience partagée en amont des sujets singuliers. C'est ce qu'on a pu appeler champ transcendantal impersonnel. Je prends l'expression chez Sartre, mais qui, elle est reprise ensuite chez Deleuze et chez d'autres, etc. Il y a un champ transcendantal, c'est-à-dire en amont de l'expérience, qui est impersonnel, qui est donc en amont de l'individuation des sujets particuliers. Et c'est cet amont, n'est-ce pas, que invoque la littérature et à partir duquel on lit des livres. Ce qui fait qu'on est touché, par exemple, je sais pas, Anna Karenine se jetant sous les roues du train, nous touche en amont de notre expérience particulière, en amont de ce que chacun a vécu. Non, il y a un amont d'un nous qui partage d'emblée et, je dirais, nécessairement, autant qu'il est humain. Parce qu'on peut aussi se déshumaniser. Mais autant qu'on est humain, on participe d'emblée, d'entrée, à cette émotion universellement partagée.
Un appel à une forme de philosophie plus douce, plus ouverte, plus poétique aussi. C'est ce que vous pouvez retrouver dans La puissance du pensif ou Comment pense la littérature, un magnifique essai de François Julien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Julien, aujourd'hui dans La couleur des idées.
Je vous remercie.
Je dis la musique. Vous voulez dire un mot sur la musique ? On se quitte avec la musique française ou pas ? Oui, peut-être j'ai une dernière question. On a beaucoup parlé de poésie, de littérature, François Julien. Est-ce que la même chose, la pensivité, pourrait être dite de la musique ?
Alors, je crois qu'il faut distinguer, et ça demanderait un peu de temps.
En une minute, parce que nous terminons.
La musique me rend pensif, mais parce que je ne suis pas vraiment un musicien, je crois. Je pense que si j'étais musicien, j'aurais une exigence autre. Mais c'est vrai que moi, écoutant la musique, étant sensible à la musique, je me laisse aller dans cette écoute, qui à la fois dans laquelle je me concentre aussi. Donc il y a quelque chose chez moi qui devient pensif à écouter la musique. Mais je crois que si j'étais un vrai musicien, c'est-à-dire un compositeur de musique, j'aurais sans doute une autre exigence.
C'était La couleur des idées de François Julien. Puissance du pensif ou Comment pense la littérature, on le rappelle, est publié aux éditions Actes Sud. Katia Madol, Paula Floche, Pascal Seyss, nous vous remercions d'être fidèles au rendez-vous de La couleur des idées. Puis nous vous fixons rendez-vous, bien sûr, samedi prochain à midi et dans l'attente et toute la semaine, écoutez Musique 3, bien sûr.